demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 14 novembre. Laurent Wauquiez et 10 représentants de la filière hôtellerie-restauration interpellent le gouvernement. Nous verrons pourquoi dans cette édition. La nuit de la philosophie devait se tenir vendredi prochain à la salle Paul Garcin. La ville de Lyon a décidé d'annuler cette location payante de la salle. La Miviludes a publié un appel à la vigilance sur son site internet concernant Nouvelle Acropole, l'association porteuse de l'événement. Pour limiter l'impact carbone lié à la construction, rien de mieux que de reconstruire la ville sur elle-même en réutilisant le plus possible le bâti existant. Un exemple à Gerland dans cette édition avec l'ancien immeuble de la Massif devenu école. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Marc Campesi, le président de Diagonal Concept, à l'origine de cette rénovation.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Laurent Wauquiez, 10 représentants de la filière hôtellerie-restauration, interpellent donc le gouvernement en adressant une lettre ouverte à Elisabeth Borne. Ils réclament notamment la possibilité que les entreprises de la filière puissent bénéficier du bouclier tarifaire. Parmi les signataires, Alain Grégoire, le président de l'UMI Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore Christophe Marguin, le président des Toques Blanches lyonnaises. Le mouvement social chez Keolis continue de perturber ce lundi plusieurs lignes de bus et cars du Rhône. CGT et CFDT veulent alerter sur la pénurie de chauffeurs qui provoque une surcharge de travail. Certaines lignes scolaires junior direct ne circuleront pas le matin uniquement. Il est prudent donc de se renseigner. La Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a publié un appel à la vigilance concernant la nuit de la philosophie. Cette nuit est organisée dans 7 villes de France avec la participation active des associations Nouvelle Acropole soupçonnées de dérives sectaires. Cet événement était en particulier annoncé à Lyon, à la salle Paul Garcin. La ville de Lyon a décidé d'annuler cette location payante de la salle. Ce mouvement a fait l'objet de 27 saisines depuis 2020 en raison d'une organisation extrêmement pyramidale, d'exigences économiques et humaines disproportionnées et de plusieurs situations d'emprise entretenues sur des personnes fragiles, souligne la Miviludes. Nouvelle Acropole dispose d'un centre dans le quartier d'Ennet qui fêtera en 2023 ses 50 ans. On est strictement apolitique et areligieux. On n'a jamais eu une attitude fasciste, commente la déléguée régionale du mouvement répondant aux mises en garde de la Miviludes.
Lyon demain, idée en partage.
Alors que la COP27 se poursuit jusqu'à la fin de la semaine à Sharm el-Cheikh, au bord de la mer Rouge, l'économie circulaire est plus que jamais au centre des priorités. 14 milliards de mètres cubes de béton, vous avez bien entendu, sont coulés chaque année. Selon l'Association mondiale du ciment et du béton basée à Londres, le ciment et l'acier restent de loin les deux premiers matériaux utilisés et aussi les plus émetteurs de CO2. Pour limiter l'impact carbone lié à la construction, rien de mieux que de reconstruire la ville sur elle-même en réutilisant le plus possible le bâti existant. Un exemple à Gerland, où l'ancien immeuble de la Massif, avenue Leclerc, au bord du Rhône, abrite désormais SMA et plusieurs écoles du groupe Collège de France. L'immeuble conservé a été totalement réhabilité pour accueillir dans les meilleures conditions les étudiants et étudiantes. Sébastien Duchesneau, directeur du campus SMA, école de management en alternance.
Le concept du bâtiment nous a plu parce qu'il mettait les étudiants au cœur du projet. Journée de cours un peu intense, ils sont moins fatigués ici qu'ils pouvaient l'être dans l'ancien bâtiment, grâce à la qualité de l'air et à la qualité des matériaux qui ont été utilisés. Sur les 9 niveaux du bâtiment, il y a des indicateurs qui récupèrent plein de données, des données sur le taux de CO2, le taux de particules fines, l'indice de virus qu'il peut y avoir dans les salles pour éviter les maladies, ou encore la capacité cognitive que peuvent avoir les alternants pour leur apprentissage. On aime bien qu'ils soient acteurs dans la formation, et là, ils doivent être acteurs du bâtiment. Ça veut dire que de temps en temps, il faut dire, tiens, là c'est le temps, il faut que j'ouvre les fenêtres. Tiens, là il faut que je fasse attention à ça. On a mis des bacs de tri aussi sélectifs pour aller avec le bâtiment. Bon bah ok, ma bouteille en plastique, elle va dans tel bac et pas dans tel bac. Voilà, on les rend acteurs aussi parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des professionnels. Et du coup, la capacité de concentration est meilleure ici que dans notre bâtiment. Et du coup, ils apprennent mieux et ils voient le temps passer plus rapidement. Et ça, c'est quand même une vraie plus. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être sur une chaise dans une salle de cours et d'attendre que le temps passe.
La rénovation lourde du bâtiment a été pilotée par l'entreprise Diagonal Concept. Le Vela Verde, c'est le nouveau nom de cet ensemble immobilier, affiche une basse consommation énergétique et une faible empreinte carbone. 3000 m² optimisés, surélevés, un poumon vert en toiture avec à la clé des innovations en termes de chauffage, de refroidissement et de contrôle de la qualité de l'air. Pour en savoir plus, nous avons rencontré l'architecte Marc Campesi, président de Diagonal Concept.
Notre métier et notre action principale avec mon associé Sophie Surlaise, c'est de réemployer la ville, de réemployer les bâtiments. Nous sommes spécialisés dans le traitement des bâtiments dont plus personne ne veut. Nous luttons contre la démolition des bâtiments parce qu'on est quand même ici pour économiser de la matière. Il y a un vrai sujet. Pas que la matière, la matière induit aussi le carbone et les impacts que cela peut produire de construire, déconstruire. Pour nous, la priorité, c'est la réhabilitation et c'est notre spécialité.
Alors comment vous l'avez traité, ce bâtiment ?
Déjà, on est passé d'un immeuble de bureau à un immeuble d'activité, à un immeuble à une école. Les réglementations ne sont pas les mêmes, c'est très contraignant. Il a fallu aménager des escaliers complémentaires, renforcer des dalles, enfin voilà. Un changement d'affectation du lieu a des conséquences importantes. Alors au-delà de ça, nous ce qu'on aime bien c'est aller à la conquête de tous les espaces, consommer toutes les surfaces disponibles dans la ville et elles sont nombreuses. Donc ici en l'occurrence, nous avons agi sur différents niveaux. La toiture avec un rooftop qui est exceptionnel, qui est avec une vue sur Confluence et sur la colline de Fourvière, sur le musée Confluence qui est aujourd'hui un lieu qui est apprécié de tous. Au-delà de ça, autre espace disponible, le niveau moins 1, le sous-sol. Tout le monde nous a regardé avec des grands yeux en disant vous allez aménager un sous-sol, mais c'est pas possible. Et bien le sous-sol aujourd'hui, il est aménagé, il est utilisé par les étudiants, c'est leur espace de pause, il est plein comme un œuf et les étudiants l'adorent. Encore au-delà de tout ça, dans tous ces immeubles des années 90, on trouve des terrasses en gravillon avec des demi-étages, etc. Et bien ces lieux, on est parti à leur conquête, on les a aménagés. Avec Sophie, on en a fait des terrasses, des lieux accessibles, des lieux végétalisés pour aussi contribuer à réduire les îlots de chaleur urbains et puis également à créer des chapeaux sur nos bâtiments pour les protéger du soleil, puisque dans notre démarche aussi, au-delà d'aller conquérir toutes ces surfaces, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens à la fois pour l'investisseur, puisqu'on va lui offrir de nouvelles surfaces, pour les usagers, on apporte du bien-être, mais aussi pour la performance globale du bâtiment. Notamment, aujourd'hui, notre souci premier est de se préoccuper des canicules et des effets caniculaires à venir qui vont malheureusement pas aller dans le sens du mieux.
Et là, le bâtiment, j'ai vu qu'il est exploitable de moins 35 à plus 55, hein, c'est ça ?
Ici, on a mené une expérience un peu particulière. On est dans une démarche globale de résilience. On construit déjà pour demain. On ne construit pas avec la réglementation 2020 ni 2030. On se projette déjà en 2040, voire plus loin. Ce bâtiment, nous l'avons voulu adapter aux fortes canicules. 70 à 80% des surfaces sont traitées par un système extrêmement innovant qui nous permet de... Alors, moins 35, j'espère qu'à Lyon, ça ne sera pas le cas. Les plus 50, plus 55, c'est fort probable. Donc, on a expérimenté une nouvelle solution, un nouveau process énergétique qui nous permettra d'affronter les canicules sans émettre de carbone. C'est quand même ça l'enjeu.
Alors, comment ça marche ?
Ah, ça, c'est un miracle. C'est une solution lyonnaise, développée à Lyon, fabriquée à Lyon, avec une bonne partie de produits issus de la région. Donc, c'est une, on va dire, une pompe à chaleur sans gaz à effet de serre, développée par, avec l'un de nos partenaires que je nommerai, qui s'appelle Giro Bulli d'Industerm, qui a une filiale qui développe des produits de rafraîchissement. Donc, cette pompe à chaleur contient un gaz qui n'est pas un gaz à effet de serre. Contrairement à la majorité des pompes à chaleur disponibles sur le marché, il y a un indicateur qui s'appelle le GWP, le Global Potential Warning. La référence, c'est le CO2. C'est une valeur de 1. La majorité des pompes à chaleur qui sont installées aujourd'hui ont un GWP entre 2000 et 2005. Les nouvelles générations de pompes à chaleur ont un GWP entre 400 et 800. Donc, ce qui est plutôt bien. Donc, 400 fois à 800 fois plus puissant en termes de gaz à effet de serre que le CO2. Donc c'est un peu dramatique parce qu'on en installe beaucoup. Cette pompe à chaleur contient un gaz à GWP négatif. C'est une innovation assez exceptionnelle, mais pas que. Cette pompe à chaleur, elle est reliée nativement à une centrale photovoltaïque en autoconsommation qui est placée à côté de l'équipement. Les électrons choisissent toujours le chemin le plus court. Donc quand la PAC se met en route, elle est auto-alimentée par cette centrale photovoltaïque. Donc elle va produire du chaud ou du froid, parfois gratuitement, mais la majorité du temps gratuitement. Et cerise sur le gâteau, elle contient un module de stockage de froid et de chaud. Un module de stockage de chaud et de froid, quel est l'intérêt ? C'est que quand le bâtiment ne fait pas d'appel d'énergie de froid ou de chaud, la pompe à chaleur alimentée par la centrale photovoltaïque va produire du chaud et du froid et va être en mesure de le stocker dans ce module qui est un module assez exceptionnel puisque stocker l'énergie aujourd'hui c'est l'enjeu du siècle. De l'énergie on en a à revendre sur Terre. Dans la Terre, dans le ciel, elle est largement disponible. Notre gros souci c'est de le stocker. Là aujourd'hui on sait stocker de l'énergie thermique, enfin froid ou chaud, dans des bâtiments existants au sein de modules. On l'a expérimenté avec une autre technologie, avec le géostockage, il y a 4 ou 5 ans, dans un bâtiment qui est à énergie positive, tout usage confondu, plus 30%. Un bâtiment où le client a des recettes énergétiques et n'est pas angoissé de ses dépenses fin de mois d'électricité. Donc ici, on a expérimenté le même process, mais avec une autre façon de stocker l'énergie. Alors vraiment, c'est une expérimentation, donc on a monitoré le bâtiment et monitoré tous les équipements pour s'assurer de la performance du système. Bon, on en est déjà sûr, mais on veut quand même le prouver par la mesure.
Et dans ces mesures, il y a notamment une mesure de pollution, parce que finalement, vous luttez aussi aussi, non seulement pour la modération de la température, mais aussi pour une baisse du taux de pollution.
Vous savez que l'air est très pollué à l'extérieur et on dit aussi à l'intérieur des bâtiments qu'il est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon, bah ici, on a fait un peu autrement. Dans la conception du bâtiment, tous les matériaux que vous voyez autour de vous sont des matériaux sans émission de polluants. Déjà, c'est une action préventive. Ensuite, on a un système de filtration sur notre ventilation qui est extrêmement performant, qui permet d'éliminer la majorité des polluants. Et pour s'assurer de la performance des systèmes, on a mis en place des indicateurs qui sont pour nous des indicateurs extrêmement importants. Alors le CO2, c'est le basique, hein. C'est les indices de confinement, ça nous permet de valider que l'air est bien renouvelé, mais également l'hygrométrie, qui influe énormément sur la température que vous ressentez. Vous ne ressentez pas la même température s'il fait 30 degrés avec 80% d'humidité que 20%. La chaleur est décuplée si l'air est trop humide, par exemple. Ensuite, on va mesurer, alors là ça devient un peu plus subtil, on va mesurer les particules fines, c'est les poussières. Ça, ça intéresse personne. C'est les fameuses PM2.5, PM10, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les PM1, PM2.5 surtout. Les PM1, ce sont les particules fines qui rentrent dans vos poumons, qui traversent la plèvre et qui peuvent aller dans le sang et qui font malheureusement à terme des dégâts. Les PM10, qui sont des particules de poussière un peu plus grossières, vont vous irriter le système respiratoire, ce qui est déjà fort désagréable. Donc, on s'assure que le bâtiment n'est pas pollué à l'intérieur des locaux. On a des capteurs qui sont, on a une dizaine de capteurs dans le bâtiment, qui mesurent en continu la qualité de l'air. Et tout le monde l'a vu tout à l'heure lors de la démonstration qui a été faite in situ, il n'y avait quasiment pas de particules fines dans le bâtiment, alors que le niveau de particules fines à l'extérieur du bâtiment était extrêmement élevé. Finalement, on met à mal cette théorie qui dit que c'est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que quand on rénove bien les bâtiments, on arrive à extraire les polluants. Et là, on a la preuve par la mesure.
Dernière question, Marc Campesi, vous avez dit que vous aviez aménagé les sous-sols, donc il n'y a plus de place de parking, c'est ça? Une, je crois.
On n'est pas forcément, on est en milieu urbain. Je pense que les voitures ont leur place pour partir en vacances, pour faire du covoiturage. Mais vous voyez bien que la ville est en train de se transformer. On ne peut plus prendre sa voiture sans y passer 2 heures. Moi, j'ai malheureusement pris ma voiture pour transporter du matériel il y a quelques jours. J'ai mis 1 heure pour aller de la Guillotière à Saint-Georges. Donc plus jamais, quoi. On sait que les vélos, c'est une solution. Et par contre, qu'il manque de place. On sait aussi qu'il y a des problèmes de vol, de vélo, etc. Donc, dans les sous-sols, on a aménagé, on a viré les voitures, on a gardé une place pour les gens avec une personne à mobilité réduite, et on a aménagé 120 places de parking, trottinette, vélo et vélo électrique. On a mis des prises aussi pour les vélos, puisque ici, l'énergie coûte pas bien cher, donc on s'est permis de mettre un peu quelques prises pour charger les vélos.
Marc Campesi, président de Diagonal Concept. Son travail est allé jusqu'au choix des tables et jusqu'à l'aménagement des salles de classe, des solutions réplicables sur d'autres bâtiments dans un contexte climatique toujours plus tendu. Notez que le Palais de la Bourse au Cordelier accueille demain mardi l'Energy Meeting Lyon 2022, une journée pour faire le point sur la sobriété énergétique et environnementale du secteur du bâtiment, quelques 80 conférenciers et la présentation de projets inspirants tels que Lever la Verdé justement, mais aussi la réhabilitation de 22 bâtiments à la Doua ou encore la rénovation de 400 logements de la Sacquelle. Avant la trêve, l'Olympique Lyonnais signe une nouvelle contre-performance avec ce match nul, un partout, concédé à Décines vendredi soir face à Nice. L'Olympique Lyonnais n'a pu compter que sur un pénalty accordé à la Casette pour égaliser avec les Niçois un partout à la 89e minute. Le Master 1000 qui se joue à Bercy depuis 86 pourrait déménager à Lyon. La LDLC Arena de l'Olympique Lyonnais, qui ouvrira ses portes dans un an, est candidate pour récupérer l'événement un peu à l'étroit à Bercy. Selon le quotidien Le Progrès, une rencontre a déjà eu lieu il y a plusieurs mois entre les représentants de l'OL et ceux de la Fédération française de tennis, en l'occurrence le Lyonnais Gilles Moreton et Cédric Pioline. Henri Anglade, le grand champion cycliste des années 50 et 60, est décédé à Lyon à l'âge de 89 ans. Anglade passe professionnel en 1957. En 59, il remporte successivement le Critérium du Dauphiné Libéré, puis le Championnat de France sur route. Il termine deuxième lors du Tour de Suisse et du Tour de France 1959, devançant même Jacques Anquetil. Il termine le Tour de France 64 à une excellente quatrième place, derrière le trio Anquetil-Poulidor-Bahamontès. Il termine aussi le Tour de France 65 à la quatrième place. Henri Anglade remportera encore le Championnat de France sur route en 65. Il termine sa carrière en 67 comme équipier de Raymond Poulidor. Il a disputé 10 Tours de France. À partir de 1976, Henri Anglade devient directeur sportif de l'équipe Le Jeune, où il dirige notamment le grimpeur Lucien Van Imp. À l'initiative d'Henri Anglade, la chapelle Notre-Dame des cyclistes, située à la Bastide d'Armagnac dans les Landes, a été ornée d'un vitrail moderne qu'il a lui-même dessiné. Anglade, une véritable légende du cyclisme, très appréciée dans la région, le Vélo Club de Brignais lui rend hommage chaque année en organisant une épreuve cyclotouriste à son nom. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.